Décryptualité, semaine 13, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Bon, aujourd'hui on a un son correct.
Oui, c'est bizarre hein.
C'est parce qu'on est tous ensemble.
C'est ça, vu les jours fériés. Eh bien, qu'a-t-on au sommaire?
Alors, petite revue de presse, 4 articles.
On va commencer par ZDNet France. ZDNet France, la crise de gouvernance de la Free Software Foundation ne s'arrange pas, par Stephen G. Vaughan-Nichols.
Alors, crise de gouvernance, en gros, il y a des accusations qui ont été lancées contre Richard Stallman. Alors, il y a pas mal de problèmes avec Richard Stallman, hein, globalement, il a des comportements difficiles, mais il y a tellement d'accusations idiotes et complètement disproportionnées qui sont sorties que là, ça ne veut plus dire grand-chose. Hein. Il a été accusé habiliste, c'est-à-dire qu'il est transphobe, des accusations qui ne tiennent pas qu'on creuse, mais bon, voilà.
Bah après, c'est deux sujets à troll, avec les gens qui sont derrière lui et ceux plutôt contre lui. En tout cas, pour moi, il a ce talent d'avoir réussi à se faire beaucoup d'ennemis. Et bon, les circonstances, hein, chacun de faire son opinion et de prendre position, mais effectivement, hein, une certitude, c'est que ça divise.
Article suivant, ZDNet France, aux racines de Wikipédia, la culture du logiciel libre par Thierry Noisette.
Donc on reprend un petit peu ce que c'est que Wikipédia, et effectivement, les racines, la base, c'est le logiciel libre et son esprit. Donc bah, ça fait toujours du bien de le rappeler, c'est toujours agréable. Et puis Wikipédia, gros succès, hein, c'est un projet mondial. C'est peu de le dire, un des premiers sites internet consultés sur le monde.
Oui, j'ai contribué à Wikipédia au début des années 2000. Hein.
Sur les pages de flingues. Hein.
Sur plein de choses, dont ce sujet-là, ce qui est totalement anecdotique. Mais voilà, et c'était assez rigolo parce que quand j'y repense à l'époque où tout le monde disait « Mais qu'est-ce que c'est? Ça marchera jamais, mais c'est scandaleux, etc. » Il y a eu beaucoup de réactions et aujourd'hui, ça fait vraiment partie du paysage, donc c'est assez rigolo.
Alors, ceci dit, hein, toujours, il y a besoin de modérateurs parce que même si ça fonctionne bien, le nombre de participants n'est pas aussi grand qu'il le faudrait, mais ça n'empêchera pas.
Et ça, c'est un sujet à part entière.
RTBF Info, la séquence ARN du vaccin Moderna publiée en open source par des chercheurs de Stanford, par la rédaction.
Alors, ce n'est pas les créateurs, les inventeurs originaux ou les découvreurs originaux du vaccin qui l'ont publié.
Tu veux dire les chercheurs du laboratoire?
C'est ça, c'est d'autres labos qui ont reverse-engineeré le protocole, les molécules, je ne sais plus exactement.
Oui, mais c'est Luc. Du piratage.
Non, tu as le droit de le faire, et puis c'est de la science, hein, donc tous ces processus ne sont pas couverts par le droit d'auteur, les brevets, le droit des marques et tutti quanti. Donc non, on a le droit de faire cela et de le publier ensuite, et aujourd'hui, eh bien, des gens qui voudraient refaire ces vaccins-là ont de bonnes bases pour y travailler.
Et limite, quand on voit que tous ces vaccins ont été trouvés grâce à des fonds publics, je trouve ça inadmissible qu'ils soient fermés.
Donc si c'est une université américaine, côté fonds publics, c'est loin d'être évident. Mais bref.
CIOonline.com, ne pas respecter la licence d'un logiciel peut bien relever de la responsabilité contractuelle par la rédaction.
Bon, je propose que ce soit le sujet de la semaine. C'est un sujet plutôt intéressant, bien qu'obscur.
Oui, oui, et on ne maîtrise pas complètement le sujet, donc on risque de dire des bêtises.
Jamais, mais, voilà. Jamais.
Mais cette dimension juridique, elle est très importante dans le logiciel libre, enfin dans l'informatique en général, mais particulièrement dans le logiciel libre, puisque ben, c'est ça qui va fixer ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Les fameuses quatre libertés du logiciel libre, elles sont dans la pratique décrites dans une licence, qui est un texte qu'on peut utiliser et opposer devant un tribunal si on n'est pas content de la façon dont un acteur l'a utilisé.
Oui, j'aime bien le rappeler, c'est qu'une œuvre de l'esprit, par défaut, on ne peut rien en faire, on ne peut pas le modifier, redistribuer notamment, on ne peut pas participer jusqu'à 70 ans après la mort d'un auteur. Et tant qu'on est dans cette période-là, il faut obtenir des droits d'accès sous forme d'une licence, par exemple, donc des licences privatrices, qu'on n'aime pas trop, on a des licences libres, qu'on apprécie beaucoup et qu'on met en avant. Mais sans cela, et si on n'accepte pas de suivre une licence, par défaut, on retombe sur un droit usuel et on n'a pas l'usage.
Alors, le cas qui nous intéresse dans cet article-là, la procédure que Entrouvert, qu'on salue au passage, avait lancée en 2005, oh my god, c'est loin, contre Orange.
Oui, pour l'utilisation de logiciels qui ont été développés par Entrouvert, hein, qui correspondent à certains usages, et Orange avait gagné un appel d'offres. Et avait utilisé ces technologies, ces développements de la société Entrouvert, sans respecter la licence. Donc Entrouvert dit que bah, Orange a tout fait pour faire traîner la procédure, hein, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui plus de quoi
16 ans.
16 ans après les faits, à avoir une décision de la cour d'appel, et donc ça a été très très long. Et tout l'enjeu était de savoir si c'était quelque chose qui devait être jugé au niveau du droit des contrats, Donc la licence étant un contrat qui engage à faire des choses et à respecter certains éléments. Ou si c'était au niveau du droit d'auteur, puisque le code informatique relève du droit d'auteur, et dans ce cas-là, ce serait une contrefaçon. Entrouvert voulait que la contrefaçon soit reconnue, soit jugée dans le domaine de la contrefaçon. Il y a eu donc une décision en première instance qui disait que non, ça allait être jugé dans le domaine du droit des contrats. Et là, l'appel vient de tomber et ça a été confirmé sur le droit des contrats.
On peut dire quel est le résultat ?
Alors effectivement, Orange n'a pas été reconnu coupable de contrefaçon, donc c'est un délit contractuel, mais ils ont été reconnus coupables de parasitisme et condamnés à 150 000 euros plus les dépenses et frais de procédure.
Bon, on espère que ça donnera satisfaction à Entrouvert. Hein. En tout cas, un des intérêts de cette décision pour les gens qui gardent un œil sur ce genre de sujet, c'est de dire, ok, en cas de non-respect d'une licence, à quoi on s'expose juridiquement ? Parce qu'une licence, un texte juridique, n'importe qui peut en écrire un, et ce n'est qu'une fois qu'on se retrouve devant un tribunal et qu'il commence à y avoir des jurisprudences qu'on sait ce que ça vaut vraiment. Et l'article dit
« bof ». Il dit « bof », il dit « oui, c'est vraisemblablement du contractuel dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, ça pourrait être de la contrefaçon, bof ».
En gros, c'est du cas par cas, et cette jurisprudence-là qui a été faite par la Cour d'appel de Paris est vraiment à prendre avec des pincettes, quoi.
Voilà, ça ne permettra pas de définir un cas général. Déjà en première instance, c'est la Cour d'appel, mais en tout cas, la Cour de justice européenne avait été sollicitée pour donner son avis et elle avait dit « ça dépend ».
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Voilà. Donc en gros, il juge en fonction des circonstances et dans cette décision, il est dit « ben oui, effectivement, si le non-respect est généré par un non-respect de contrat, alors c'est du contractuel. Si c'est généré par de la contrefaçon, alors c'est de la contrefaçon, super. » Mais ça, l'article est un peu léger là-dessus, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les critères qui font la différence.
Et sur le site d'Entrouvert, on voyait bien qu'il avait fallu 3 ans à des experts pour pouvoir s'exprimer sur leur cas.
Oui, au moins prouver que Orange utilisait bien ces éléments-là. Ouais.
Alors, moi, ce que j'aime bien dans ces circonstances, c'est que ça fait des années et des années qu'on discute de la puissance des licences libres et qu'on se pose des questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a voulu, quelque part, tester cela en justice et bah parce que les licences sont très fortes. En tout cas, c'était notre supposition jusqu'à aujourd'hui.
Oui, et puis aller en justice, ça coûte beaucoup d'argent et ça prend beaucoup de temps, la preuve. Hein. Et en trouver une PME, donc je pense que pour eux, financer ce procès sur des années, ça a dû être une charge importante. Orange est censé payer les frais de justice, mais on sait que bien souvent, les remboursements de frais de justice ne couvrent pas la réalité des frais, on en est toujours pour sa poche. Mais voilà, donc on comprend qu'il y a plein de gens qui hésitent à se lancer dans une procédure comme ça.
Alors, une des autres remarques, c'était de dire que les licences de logiciels libres sont très fortes parce qu'elles te donnent des droits, elles t'en enlèvent pas ou peu. Il n'y a pas beaucoup d'obligations en général, il y a le copyleft qui est dans la GPL, mais souvent on te donne des droits et donc si tu enfreins une licence de logiciels libres, tu t'enlèves des droits puisque tu te retires toute la licence.
Oui, oui, mais après, les choses deviennent compliquées pour les gens qui ne font pas que du libre. Et typiquement, bah, aujourd'hui, toutes les briques libres, elles sont utilisées très massivement par énormément d'éditeurs, plein de gens, qui, eux, ne font pas nécessairement du logiciel libre. Donc, du coup, ils sont très attentifs à qu'est-ce qui peut se passer juridiquement, quelles sont les conséquences de leur choix, dès lors qu'ils commencent à mixer du libre avec des trucs qui ne le sont pas.
Ça me rappelle une affaire qu'il y avait lue entre Free et IT Development.
Oui, effectivement, c'était un cas, un des cas limites.
C'est ils avaient mis du code dans leur Freebox qui ne leur appartenait pas vraiment, ou en tout cas qu'ils pouvaient utiliser, mais qui redistribuaient partout sans vraiment le dire.
Oui, en fait, eux disaient qu'ils ne le redistribuaient pas puisque c'était dans les Freebox. Ils disaient les Freebox, c'est notre infrastructure, même si c'est chez les gens. Or, la GPL, il y a cette idée qu'on doit conserver la même licence quand on redistribue un code qu'on a modifié. Or, Free arguait du fait que ce code n'était pas redistribué puisqu'il était à l'intérieur de leur box qui reste leur propriété.
Donc, il y a eu des démarrages en justice, il me semble, mais oui. Ça n'a pas été finalement très loin. Free a rapidement dit non, bah, c'est bon, on vous redistribue.
Quelques années quand même. Voilà.
Oui, mais globalement, ils n'ont pas été jusqu'au bout du test. Hein, donc, oui. On n'avait pas validé dans un sens ou dans un autre.
Bah, c'est un des trucs avec ces longueurs de procès. C'est qu'il est très probable qu'après plusieurs années de discussion et des démarrages de procédures, Free a dû passer en version N+2, N+3 de sa box et de se dire « Ok, on leur file leur bout de logiciel, on s'en fout. » Le truc, il est déjà obsolète. Donc du coup, à un moment, ils ont dû lâcher le morceau en se disant « Ça sert à rien. » Et c'est ça qui est assez terrible avec le temps juridique. C'est que c'est extrêmement long. Et l'informatique, ça bouge à telle vitesse. Déjà, pour le commun des mortels, c'est trop long. Mais dans l'informatique, où tout change très vite...
Alors, est-ce qu'on en profite pour parler d'une décision qui vient de tomber aujourd'hui, qui concerne aussi le droit d'auteur, mais qui est
non,
aux États-Unis ?
On n'en parle pas.
Comment ça, on n'en parle pas ? Parce que là, c'est des milliards, mon petit monsieur. C'est...
Bon, vas-y, alors.
Alors, bah, c'est l'affaire Google-Oracle, où Oracle, qui a, suite à des rachats d'entreprises, pris la possession du langage Java, eh bien, s'est plaint auprès de la justice que Google avait fait un duplicata de son environnement, du langage, et qu'ils avaient copié, fait de la contrefaçon sur le langage, sur des interfaces de programmation, des API. Et donc, le juge, en première instance, avait dit « Bah non, ça va, c'est pas de la contrefaçon, on vous a pas copié grand-chose. » C'était un juge qui savait coder, hein, pour le coup, c'était assez drôle. La deuxième instance avait dit « Non, non, bah attendez, là, ils ont copié, clairement. On voit bien que c'est une ligne qui est ici, c'est une ligne qui est là, c'est la même chose. Donc, doublons. »
Là, le juge, il savait pas coder, c'est ça ?
Et vraisemblablement, il savait pas coder la deuxième fois, parce que c'était ridicule. Et là, ils sont passés un cran plus haut, même, on pourrait dire, tous les crans plus haut, puisque c'est la Cour suprême américaine. Et la Cour suprême américaine a dit « Bah non, ce n'est pas une contrefaçon, ça va, c'est pas grand-chose, quoi. » Ils avaient le droit de le faire.
Wouhou !
Voilà, là encore, c'est des années et des années de procédure. Alors, cette décision, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que c'est une des choses qui est reprochée aux licences libres, et notamment par les gens qui aiment bien les mélanges avec du propriétaire, donc on pourrait dire qu'à la limite, on s'en fout. Mais c'est l'insécurité juridique. Et il y a plein de boîtes qui sont dans cette inquiétude de dire « Est-ce qu'un jour, il n'y a pas quelqu'un qui va me tomber dessus et me faire des procès pour ce qu'on a fait ?»
Et pour le coup, toi, dans ton boulot, il y a des gens qui te vendent des services là-dessus.
Oui, on fait appel à un service. Et à chaque fois qu'on va éditer le logiciel, le sortir, on doit passer par une étape de vérification pour s'assurer qu'il n'y a aucun logiciel tiers qu'on utilise qui ait une licence qui ne corresponde pas à la politique de la société. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau logiciel tiers qui est rajouté, il y a quelqu'un, un juriste, qui regarde et qui dit « oui, c'est bon, non, c'est pas possible ». Et ça mène à des trucs absurdes. Hein. Donc, le truc sur lequel je bosse, c'est une grosse usine à gaz vendue à des très grosses sociétés. Et donc, quand ils l'installent, ils sont obligés de mettre des trucs à la main tout seuls. C'est-à-dire qu'on les utilise, mais on ne les fournit pas. Parce que si on les fournit, alors ça voudrait dire que peut-être blablabla.
C'est parce que vous mélangez du propriétaire et du libre ?
Oui.
Pourquoi pas faire que du libre ?
Oui, oui, bravo ! Objection, ton honneur, fais tout en libre !
Bah écoute, faut aller en parler aux actionnaires, c'est clair. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les licences non copyleft, c'est-à-dire qui permettent, c'est-à-dire qui n'ont pas cette obligation de reverser le code sous la même licence, c'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un code libre et le modifier et le republier sous forme propriétaire, tout prendre, hein, c'est voilà.
Et ça, c'est ce que adore Apple, notamment, avec les licences en fait, Apache ou BSD qui peuvent faire ça.
Mais il y a plein de sociétés qui aiment bien ça parce que c'est beaucoup moins engageant. Et dans leur logique, où ils veulent rester maîtres de leur truc et mettre du propriétaire partout, ils sont plus sereins avec ce genre de licence en se disant, comme on a le droit de faire tout ce qu'on veut en aval, en termes de modification, on est vachement plus tranquille.
Bon, tout ça, c'est des discussions d'avocats, c'est obscur et compliqué. Je sais pas si on va retirer grand chose.
Bah si, la vie serait beaucoup plus simple si tout était libre, oui.
Bah oui, évidemment.
Ouais. Et ben, je trouve que c'est une super bonne conclusion.
Voilà. Bon, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.